J'ai choisi de travailler sur un poème pour les enfants d'André Chédid, grande poète française d'origine égypto-libanaise. Donc, ce choix repose sur un double intérêt que j'ai pour les oralités enfantines et aussi pour la poésie destinée aux enfants, auquel je voudrais consacrer un nouveau projet de recherche quinquennal, éventuellement. Et aussi donc sur sur le fait aussi que peu de recherches de lecture, plutôt peu de lectures appliquées portent, il me semble, sur les poèmes enfantins que peut-être la critique juge anodins et insignifiants. Chédid a publié de nombreux livres de poésie destinés aux enfants, Fête et lubie, Petit poème pour les sans-âge, chez Flammarion en 73, Le cœur et le temps, poème pour les enfants, publié à l'École des loisirs en 77, Lubie, publié en 62 et dans une version illustrée à l'École des loisirs en 79, Grammaire en fête, publié en 84. Et donc, dans la lignée des surréalistes de Breton à Desnos, en passant par Prévert, qui se sont intéressés aux univers des mots, des chants et des jeux de l'enfance, la poésie de Chédid est le lieu d'un riche réinvestissement d'une culture enfantine de tradition orale. Et c'est le cas du recueil Fête et lubie, qui fourmille d'oralité enfantine. Et un poème de ce recueil a retenu mon attention. Il s'agit de La mort du pou, dont je voudrais aujourd'hui étudier les logiques socioculturelle et interdiscursive en faisant l'hypothèse qu'il s'approprie des motifs, rythmes, techniques traditionnelles de la comptine et qu'il est en dialogue avec l'imaginaire social d'un français national scolaire. Autrement dit, le poème est structuré tout à la fois par des oralités enfantines et par une raison scolaire. On verra que ce poème comptine, emberlificote et ensauvage le processus de normalisation et de standardisation à l'œuvre dans les façons d'apprendre à écrire à tous les petits Français. Alors, je voudrais tout d'abord le lire et ensuite je vais essayer de vous montrer comment on peut lire, comment on peut cerner, disons, ces deux principales logiques culturelles qui coexistent ici, celle de la comptine et celle de la grammaire. Donc, la mort du pou. De calotte en redingote, de boulotte en maigriotte, le pou trotte, picote, gigote. De parpaillotte en iscariote, pelote, culotte, camelote, menotte, de vieillotte en cocotte, mascotte, despote ou patriote, le pou s'emberlificote. Puis un jour, tête de linotte, le pou capote dans une compote. Donc, le poème s'accommode à merveille des énumérations rapides et a priori arbitraires de mots sonores, d'un stock limité de phonèmes et de la circulation d'un nombre restreint de syllabes qui crée l'impression d'entrer dans le monde magique des comptines et du jeu chanté. Plus précisément, la mort du pou investit structurellement le genre de la comptine randonnée que les folkloristes définissent comme un conte énumératif court avec un enchaînement de situations, d'éléments ou de personnages qui se répètent jusqu'au dénouement. Le poème de Chédid, en effet, relate le micro-récit d'un pou allant de rencontre en rencontre jusqu'au dénouement signalé par la locution de liaison à fonction narrative, puis un jour, qui indique l'arrêt du périple, l'arrêt de l'enchaînement logique et, évidemment, la mort du pou, mort elle-même annoncée par le titre. Contrairement aux chansons énumératives qui sont souvent organisées autour d'un but à atteindre, le pou ne semble pas rechercher une personne ni un objet. Toutefois, le poème emprunte certaines logiques à la randonnée, comme les énumérations simples axées sur des verbes et des actions, trotte, picote, gigote, s'emberlificote, capote, des énumérations d'objets, calotte, redingote, pelote, culotte, camelotte, menotte, compote, et enfin des énumérations sur des énumérations d'êtres, boulotte, maigriotte, parpaillotte, iscariote, vieillotte, cocotte, mascotte, despote, patriote, linotte. De plus, la formulation de « en » répétée à quatre reprises, tout comme le verbe initial « trotte » suggère le mouvement et la traversée de ce pou qui se déplace du calviniste au juif, de la vieille à la jeune fille, de la grosse à la petite. Structure cumulative, sérielle, répétitive, la randonnée se définit aussi comme un récit qui, partit d'un point donné, se développe en épisodes successifs, dépendant les uns des autres, pour arriver à un point où un événement oblige le récit à retourner sur ses pas en traversant de nouveau, mais en sens inverse, les mêmes épisodes et revenir au point de départ pour conclure. Et donc, la randonnée se caractérise la plupart du temps par un aller-retour. Allers-retours qui sont des mouvements contrastés. L'aller traduit la longue durée d'une série d'actions, d'une série d'actes dépendant les uns des autres, et le retour est souvent très, très bref, rapide et précipité. Or, les actions organisant le cheminement du pouls sont a priori peu dépendantes les unes des autres. On peut certes reconstruire des liens sémantiques entre certaines micro-chaînes. Les mots calotte et redingote sont des vêtements, tandis que boulotte et maigriotte sont des formats corporels antithétiques. Mais aucun paradigme ne semble regrouper l'ensemble des lexèmes à leur denoncement rationnel, donc se substitue ici un alignement d'éléments disparates. De plus, l'élan du pouls ou l'allée du pouls n'est pas suivi d'un retour, donc n'est pas suivi d'une cascade descendante culminant sur la calotte, hein, c'est-à-dire on ferait le trajet du pouls dans un sens inverse, on irait jusqu'à la calotte, puisque habituellement, la randonnée se caractérise par, comme je le disais, un aller et un retour. Donc, le pouls, évidemment, est décédé, donc il n'effectue pas le retour typique de la randonnée. On peut dire alors que la chaîne cumulative capote, en quelque sorte. En revanche, rien n'empêcherait un conteur ou un enfant de prendre le poème à l'envers et de repartir en sens inverse, hein, de ressusciter le pouls, hein, d'une certaine manière, allant de patriote, despote, mascotte, cocotte en vieillotte. Ou de le compléter en retardant le moment où le pouls capote dans la compote, soit en lui faisant faire des détours, en allongeant la randonnée, en inventant de nouveaux couplets qui pourraient ressembler à ces vers-ci dont la rime en hotte assure la continuité. Et donc, ce sont des vers de Montcru, vous m'excuserez. De crotte en carotte, de papillote en marmotte, de jour de vote en ribote, de quenotte en botte, le pouls grignote, tremblote et tout saute. Donc, à l'évidence, cette comptine poétique, celle de Chédide et non pas la mienne, bien entendu, est pétrie de rimes et d'allitérations. Pou, picote, parpaillote, pelote, despote, patriote, etc. Calotte, culotte, camelotte, cocotte, etc. Et, on le sait, certaines oralités enfantines présentent des jeux formels centrés sur le cumul et l'assemblage, de sonorités difficiles à prononcer, dont les virelangues sont l'exemple le plus achevé. La pipon, le poupon, le pompon, pa-pa-pa. Ou, je vous en donne encore un pour le plaisir de le dire, puisqu'il met d'ailleurs aussi en scène et en son un pou. Chez les papous, il y a des papou-papa et des papou-pa-papa. Il y a aussi des papou-apou et des papou-pa-apou. Et je vous épargne la suite que je suis incapable de prononcer. Mais donc, les virelangues, les rimes et les allitérations servent, outre leur aspect récréatif, euphorique et gratuit, à faire progresser l'enfant dans l'acquisition des consonnes et de leurs articulations. Et ici, je pense que les consonnes percutantes, la P et T, qui sont les plus présentes dans le poème, sont aussi, en tout cas selon les spécialistes de l'enfance, celles que les plus petits ont le plus de difficultés à prononcer, à articuler et à différencier. Donc, n'y a-t-il pas ici, dans ce texte qui reprend certaines logiques sonores aux exercices de récitation scolaire, une forme d'initiation à la maîtrise des chaînes consonantiques? Peut-être, mais disons, à première vue pourtant, cet univers poétique est hors du monde de l'écrit et de la raison scolaire. Donc, un pouls trotte et picote. Et il fait l'école buissonnière, en quelque sorte. Mais les comptines, cette culture de l'enfance qui se fredonne dans la cour d'école, s'enrichissent des leçons d'écriture entendues en classe et intègrent souvent des pratiques de récitation. Alors, le pouls, vous le savez, est un personnage important de la formule mnémotechnique passée au rang de comptine, indiquant le regroupement des mots dont le pluriel exceptionnel s'écrit en « ou » « o-u-x » au lieu de « o-u-s ». Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Le pou joue le rôle de ce que je nommerais un orthographème, donc un orthographème que je définis comme un mot nanti d'une fonction sémantique et symbolique dans une culture donnée, soit plus précisément comme un fétiche de la discipline scolaire et de l'ordre alphabétique. Ce lexème, pou, synthétise en effet depuis 1835 dans la société française des manières d'enseigner la langue française sur des modèles mnémotechniques. Il fait partie prenante d'un discours orthopraxiste de l'école qui a pendant longtemps vu dans la copie et dans la mémorisation des techniques optimales pour l'apprentissage de l'orthographe. Ainsi, en brayeur orthographique, le mot « pou » est, pour paraphraser Bakhtine, déjà gros d'une altérité scolaire. C'est un mot d'autrui qui appartient non seulement à l'institution scolaire et à la tradition grammaticale, mais également à la littérature orale et écrite. Nombreux sont en effet les poètes, depuis Rimbaud et ses chercheuses de pou, à faire du pou un héros politique et à réécrire, comme Soupeau et Desnos, la célèbre formule scolaire utilisée pour retenir les exceptions, formule dont la culture enfantine, donc de tradition orale, a elle aussi proposé plusieurs variantes anonymes. Et donc, je vous donne une de ces variantes anonymes. Un hibou moche comme un pou avait pour joujou sur ses genoux un caillou aussi chou qu'un bijou. Néanmoins, le poème de Chédid n'est pas une chanson pour apprendre, ni une rengaine scolaire, mais pour une certaine critique, les livres de Chédid destinés aux enfants, donc je cite, « sous l'apparente familiarité et les messages à la fois drôles et poétiques, présentent aussi des conseils grammaticaux qui subrepticement enseignent aux jeunes lecteurs des choses utiles, soit tel point de grammaire, soit telle autre petite leçon pratique. » Selon moi, la poésie n'enseigne pas de leçons pratiques, au contraire. Elle joue avec elles, les dénudant de leur but utilitaire et pédagogique, ne gardant que la magie des mots et la magie sonore et graphique des mots, et résistant plutôt par la poésie à une forme de français élémentaire. Toutefois, le poème s'inscrit dans une continuité avec les pratiques orales et créatrices des enfants qui n'hésitent pas à faire des emprunts à des textes didactiques pour créer des formulettes. Les enfants étant, selon Jean Beaucomont, qui est le grand spécialiste qui a fait les premières collectes de comptines au début du 20e siècle, avec Soupeau, entre autres. Donc, selon Beaucomont, les enfants sont séduits par l'énumération rythmée de certaines nomenclatures et de certaines règles grammaticales. Or, le poème s'amuse avec la grammaire. Il présente une série d'anomalies de la langue française. Il met en acte une addition de mots problématiques, réunis à la fois pour leur sonorité et pour leur irrégularité, tout comme il présente, pour citer René Balibar, dont je m'inspire pour la suite, tout comme il présente, là, pour reprendre Balibar, un riche éventail de catégories grammaticales, comptant parmi les plus importantes de l'enseignement du français élémentaire. Alors, dans ce poème, on retrouve la catégorie grammaticale du nom commun. Calotte, redingote. Le nom propre, iscariote. Bon, caché sous toutes ces majuscules sur lesquelles je reviendrai brièvement. On retrouve la catégorie donc, du nom propre, du nom commun, du singulier et du pluriel, menottes et culottes. Là, je ne fais pas la démonstration, mais disons, le pluriel, ce sont des mots qui sont souvent au pluriel. Et dans la logique de la dictée, en tout cas, je pense qu'il y a une logique de la dictée qui structure ce poème, j'y reviendrai brièvement. Mais en tout cas, si on pense que ce poème est une dictée d'une certaine manière, là, ou parodie la dictée, rien ne peut indiquer à l'écolier ou à celui qui entend le poème le pluriel des mots, car il manque ici les déterminants. Et vous le savez que dans le groupe nominal, le nom commun donne son genre et son nombre au déterminant et à l'adjectif. Et ici, les donneurs d'accords ne livrent pas les indices du nombre et seul le genre peut s'entendre. Mais le pluriel ne peut pas s'entendre. Et donc, si on ne fait qu'écouter le poème, on ne sait pas que les mots sont au pluriel. Masculin et féminin comme autre catégorie, avec la règle du redoublement du T, vieillotte et maigriotte, règle sur laquelle je reviendrai. L'adjectif qualificatif comme autre catégorie grammaticale, bouillotte, vieillotte, maigriotte. Le verbe pronominal, sans berlificote, Autre catégorie grammaticale, le niveau de langue, boulotte, camelotte, semberlificotte, gigotte sont des mots du registre familier. Le suffixe -ote, O-T-E et O-T-T-E, selon qu'il est nominal ou adjectival, donc j'ai ressorti mes grammaires hein, pour préparer, mais selon qu'il est nominal ou adjectival, n'a pas le même sens. Il peut servir à rendre un nom commun péjoratif, comme le mot « camelotte », à désigner des habitants d'une ville ou d'un pays. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai lu ce poème, j'avais l'impression que Parpaillotte et Iscariote, c'était des noms de villes. Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça sonne un peu comme ça, surtout si on pense que des enfants peuvent le lire. Donc, le suffixe sert aussi à donner une valeur diminutive, comme dans boulotte et vieillotte. Et évidemment, les diminutifs abondent dans les comptines hein, de tradition orale. Rien d'étonnant en ce sens à ce qu'ils apparaissent ici dans ce poème sur le minuscule et le mineur, hein, dont le poète, le pou est évidemment le grand héros, ou le petit héros. Et avant-dernière catégorie grammaticale, la question de la majuscule, hein, pou, parpaillotte, iscariote, etc. Et tout le poème bouleverse les règles des majuscules. Pou, bien sûr, est personnifié, donc c'est le héros de la comptine, il porte sa majuscule comme un nom propre. Mais c'est surtout dans la deuxième strophe que se condensent les majuscules, chapeautant tous les mots, selon le procédé stylistique de l'antonomase, qui consiste à transformer un nom commun en nom propre. Seul, en fait, Iscariote, nom de famille de l'apôtre de Judas, qui trahit le Christ, devrait, suivant la raison scolaire, porter une majuscule. Et dernière catégorie grammaticale, la ponctuation. Il y a absence de virgule et de point dans la première strophe jusqu'à la bonne maîtrise de la ponctuation dans la strophe finale avec l'incise là, qui est entre virgules. Donc, on a bien ici, toujours pour paraphraser Balibar, une récapitulation fictive et poétique de nombreuses catégories grammaticales. Ce qui rend ce poème, à mon avis, beaucoup plus complexe qu'une comptine, qui, elle oralise souvent des règles numériques, des règles grammaticales ou des règles littératiennes de l'école, en présente rarement autant. Alors, outre l'orthographème « pou » qui prend un « x » au pluriel, ce poème comporte une autre règle que doivent apprendre tous les petits Français, celle de la lettre « m » devant les lettres « m », « b », « p » actualisées dans le mot final « compote ». Et toutefois, la règle principale qui emberlificote le lecteur et sur laquelle je m'arrêterai un peu plus longuement est celle de du double « t ». Le poème emprunte, je l'ai dit, sa forme aux randonnées, propre aux contes sériels et formulaires, dont la caractéristique principale serait ici les mots ayant une sonorité en « haute », sonorité qui s'applique à la majorité des actants, objets et actions de l'histoire. La mort du pou est donc, pour le dire en termes scolaires, un poème sur les marques orthographiques du « t ». Or, à l'oral, le redoublement de la lettre « t » ne s'entend pas, tout comme le X à pou ou le M à compote. Silencieuses, les lettres ont pourtant une réalité visible et graphique. Mais pour le lecteur aguerri, le poème contient est également comme une sorte de mystification, car se cache dans ces mots une erreur, transformant la lecture en une espèce de chasse à l'intrus et aux fautes d'orthographe. Donc, s'agit-il d'une vraie erreur? Ou d'un clin d'œil à un vieil exercice très pris au 19e siècle, la cacographie, qui consistait à livrer à l'élève des mots et des phrases mal orthographiées. Donc, Parpaillotte, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, contrairement à Vieillot, Parpaillotte, c'est le féminin du mot parpaillot, et Parpaillotte, contrairement à Vieillot, qui au féminin redouble sa lettre T pour former le mot vieillotte, ici ne doit pas redoubler son T. Et il doit s'écrire Parpaillotte, O-T-E. Donc, j'ai vérifié dans mon édition, c'est pas une erreur de moi, je sais pas si c'est une erreur volontaire, ça, faudrait que je regarde plus attentivement. Mais, Parpaillotte ne doit pas redoubler son T, mais comme vieillotte, le mot nécessite deux L. Par contre, attention à la confusion, Camelotte n'est pas le féminin de Camelot, tout comme Despote n'est pas le féminin de Despot. Cocotte peut s'écrire avec un ou deux T, cocté, le verbe plus rare ne redouble pas son T, alors que le mot cocotte, compris comme une poule, une prostituée ou une marmite, doit multiplier la lettre. Bref, il est facile de s'emberlificoter dans les règles du T. Et si les cantines donc enseignent toutes sortes de séries usuelles, hein, les parties du corps, les doigts de la main, les jours de la semaine, les mois de l'année, les nombres, le poème « La mort du pou », combinant des mots au suffixe en « hôte » ou « hôte », n'explicite dès lors pas une règle. Comme les comptines, comme dans les comptines pour apprendre les exceptions, c'est-à-dire les sept pluriels en « ou » pour apprendre l'alphabet. Il serait rengaine s'il ne combinait que des mots en « hôte » « o-t-e » ou que des mots en « o-t-t-e ». Mais l'alliance des mots à simple et à double consonne crée une confusion et ruine sa dimension pédagogique, à moins de transformer le poème en dictée. Il lui donne, il me semble, une orientation critique. Et le poème me semble en effet détourner les mécanismes d'apprentissage des règles et des exceptions de la langue française. Et à ce titre, il est tout à fait dans l'air du temps. Alors, il est en effet en relation avec un imaginaire social de la crise de l'orthographe, puisqu'au même moment se propagent des discours sur la réforme de l'orthographe qui se met en place en France dans les années 1960 et 1970, et le recueil de Chédid date de 1973. Donc, pendant ces années, des grammairiens, des pédagogues et des linguistes réfléchissent sur la nécessité d'apporter des changements à la grammaire traditionnelle et réévaluent l'entreprise pédagogique et la mission démocratique de l'école qui n'a pas vraiment été repensée depuis Jules Ferry. Et donc, le discours n'est pas nouveau, évidemment, puisque les insuffisances en orthographe des écoliers sont dénoncées depuis le début du siècle, mais il y a une véritable crise orthographique qui motive le 13 décembre 1950 la demande du ministre de l'Éducation nationale exigeant, je cite, « l'examen d'une révision modérée des difficultés et des anomalies de graphie et d'accord que présente notre langue ». Il y a une commission ministérielle d'études d'orthographe qui est nommée sous la présidence d'Aristide Bellet. Son rapport général recommande en 1966 de substituer le S au X final dans les pluriels en OU et de simplifier la graphie des mots contenant des consonnes doubles devenues inutiles. Plusieurs linguistes et grammairiens préconisent donc à l'époque la suppression des sept pluriels en OUX et l'unification, voire la suppression des consonnes doubles quand elles ne sont pas prononcées. C'est le cas, par exemple, d'Albert Dauzin et de Jacques Damouret qui suggèrent, je cite, de ne retenir qu'une seule consonne T pour les mots en OTTE, O-T-T-E ou O-T-T-E, E-R, pardon, et ils donnent l'exemple de l'INOT, qu'on devrait écrire avec un seul T. Donc, Marie-Ève, tu n'étais pas trop, tu ne t'étais pas trop trompée. Alors, ce débat sur les doubles consonnes date depuis très longtemps. Là, j'en ai retrouvé des racines jusqu'au, déjà au 19e siècle avec Ambroise Firmin-Didot, qui dit qu'il y a une contradiction complète à écrire des mots comme démailloté un T, emmailloté deux T, dont on a depuis enlevé le double T, radoté un T, balloté deux T, sangloté un T, marmoté deux T, coqueté un T, flotter deux T, etc. Mais dont des mots qui apparaissent dans le poème trotter, etc. Et il conseille de supprimer, quand j'ai trouvé le terme, j'étais assez contente, ce qu'il appelle les doubles consonnes parasites. Hein? Et c'est des lettres parasites, c'est ce qu'on les appelle des lettres parasites. Et donc, le poème de Chédid sur un pou, qui est un parasite, cumulant les mots en hôte, O-T-T-E ou O-T-E, passant d'une graphie à l'autre, actualise et active sur un mode ludique et poétique cet imaginaire social de l'emberlificotage grammatical. Proposant un jeu sur le genre, le suffixe et la double consonne, ce poème offre une forme de mise en scène poétique des règles grammaticales contestées à son époque et en exploite les possibilités combinatoires, poétiques, sonores, etc. Il est construit peut-être comme une dictée où on s'emberlificote dans les règles. Et vous savez que la dictée fait partie d'une très, très longue tradition en France, hein, participe d'un processus d'enculturation qui allie des cultures orales, vocales à des cultures écrites et savantes et qu'on a longtemps appris l'orthographe sous la dictée hein, puisque l'école républicaine depuis la fin du 19e siècle est vraiment construite sur des techniques d'apprentissage de l'orthographe comme celle de la dictée. Alors, ce poème rempli de choses se trappe, synthétise et syncrétise ces méthodes traditionnelles d'enseignement, remises en cause, et il me semble que le POU, en l'orthographème POU, condense tout cet apprentissage par cœur des leçons et des exceptions, et que la structure cumulative du poème, hein, qui cumule les anomalies orthographiques et des différentes catégories grammaticales, condense l'idée d'une dictée sur les leçons. Alors, il suppose, et je conclue là-dessus, il suppose une forme de performativité orale, je pense. Hein. Je pense que c'est un poème qu'il faut entendre, modélisé par l'agilité soit du conteur ou du dicteur à sauter de mot en mot, hein, comme le POU qui saute d'un mot à un autre. Il réinvestit les logiques des rengaines scolaires destinées à mémoriser les règles grammaticales et orthographiques tout en les emberlificotant, car son but n'est pas, comme dans les exercices académiques, de développer les compétences orthographiques d'un scripteur en devenir. Hein, et le capotage du POU qui a la tête en compote, hein, lui qui vit habituellement sur la tête, dévoile par la litote finale, hein, mot litote qui n'apparaît pas dans le poème mais qui pourrait y être, hein, le POU capote dans une compote qui est une litote de la mort du POU, dévoile donc, je pense, la difficile acquisition d'une identité linguistique. Le POU, tête de linote et peut-être élève aux mauvaises notes, meurt écrasé sous le poids de l'institution scolaire, orthographique et grammaticale. Et la compote, je me demande, est-elle faite de pommes? Évidemment, ce fruit préféré des professeurs. En adoptant une politique linguistique résolument ludique et créative et en épousant les logiques culturelles propres aux oralités enfantines, ce poème ruse avec les traditionnels rituels scolaires d'acculturation du français national et scriptural et ne suggère-t-il pas, en somme, une forme d'épouillage de la langue? Voilà. Je vous remercie.